Bonjour et bienvenue au Wine Club, le podcast BD qui délègue ses amorces.
Salut Antoine.
Salut.
Bravo, merci pour l'amorce. On enregistre aujourd'hui notre première émission, on va dire un peu hors série avec un invité. Alors on a déjà eu un invité dans notre épisode 22 Les Geeks, mais là on est dans les hors série et on va essayer en gros une fois par mois de proposer une émission avec des personnalités de la bande dessinée qui la font, qui la lisent ou qui la font vivre, histoire d'échanger les goûts de tout un chacun. Donc je suis avec Thio, je suis Wana Epier, et nous recevons aujourd'hui Antoine Boza, le fantastique auteur de L'Encre du Passé, qui est une bande dessinée dont nous avons déjà parlé et que nous avons beaucoup aimé. Salut Antoine.
Salut tout le monde.
Au programme, on va un petit peu parler de toi et ce que tu fais dans la BD. On va enchaîner ensuite avec quelques BD que tu as sélectionnées. Et puis on finira par nos questions à la con avant de se dire au revoir.
Bon programme.
Bon, oui, bah.
Ça me paraît bien aussi.
Voilà, pas grand chose de neuf. Donc, en gros, tu as un parcours assez original, quoique j'ai l'impression qu'il est en train de devenir de moins en moins. Tu as commencé par le jeu de rôle. D'ailleurs, j'ai connu ton travail par le jeu de rôle au départ.
Ouais, ça m'étonne pas. Bah, je suis pas vraiment auteur de BD, hein. On peut le dire comme ça. C'est le seul album, celui que vous avez critiqué, le seul album que j'ai publié. Donc, ma casquette d'auteur de BD, en fait, est une toute petite casquette, à peine une visière bandeau, quoi. Mais j'ai commencé effectivement par le jeu de rôle il y a, oh, ça doit bien faire 10 ans maintenant, je pense que c'était les années 2000. Le premier jeu de rôle que j'ai écrit, c'était en 2000, donc ça fait même presque 11 ans. Ça s'appelait Petite Sorcière à l'époque et c'était un jeu de rôle qui était d'inspiration des longs métrages du célèbre studio japonais que depuis tout le monde connaît, le studio Ghibli, quoi. Qui sort d'ailleurs son long métrage au moment presque où on enregistre ce podcast, je crois.
Oui, 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 Arrietty, les petits chapardeurs.
Exactement.
Voilà. Oui, je me souviens, moi j'avais lu Petite Sorcière, c'est vrai qu'il y avait une inspiration très... Déjà, c'est un jeu de rôle pour enfants, c'est l'impression que ça donnait. Il y avait cette volonté de faire un jeu de rôle pour enfants ?
C'était... À la base, c'était pas vraiment pour enfants. Quand je l'ai pensé, c'était vraiment... C'était plus l'histoire de faire un jeu de rôle partie courte et détente. Je ciblais pas spécialement un public jeune, en fait. Hein. Ça a été testé et joué avec, on va dire, des rôlistes qui avaient l'habitude... L'habitude du média depuis très longtemps, quoi. Donc, par extension, vu l'univers, ça a été, on lui a mis l'étiquette jeu de rôle enfant, mais je suis pas sûr qu'il y ait une majorité d'enfants finalement qui aient joué, quoi. J'ai croisé beaucoup d'adultes qui ont joué entre adultes et avec leurs propres enfants plus tard comme jeu d'initiation, ouais.
Alors, là, quand je pense à Petite Sorcière, j'ai toutes les images de la, on va dire, la réédition pro qui a été faite, mais je pense aussi, enfin, dans mon souvenir, hein, c'est un univers qui a toujours très très vite eu des dessins et des illustrations autour.
Ouais, tout à fait. Il faut savoir que c'est des auteurs de BD qui à chaque fois ont planché d'ailleurs sur la version amateur. Sur la version amateur, c'était un dessinateur de BD qui malheureusement nous a quitté il y a quelques années, qui s'appelait Jean-Florian Tello. Donc vous avez peut-être lu les albums, il n'y en a pas eu beaucoup du coup malheureusement, mais chez les Humanoïdes Associés, il y avait une série où il a dessiné les deux premiers tomes qui s'appelait Marshall, avec Philippi au scénario, si je ne dis pas de bêtises.
Ça me dit quelque chose.
Quelque chose, voilà, ben, ça sera l'occasion de fouiller. Mmh. Et la version éditée, c'est Arnie West qui a fait les dessins et Albertine Ralenti qui a fait les couleurs, et c'est là des auteurs qui font toujours de la BD, donc... Je saurais pas te sortir toute la liste des albums, mais pour Arnie West, il y a eu H&H chez Très Étrange. Il y a eu un album chez Glénat au Futuropolis avec Sylvain Ricard au scénario qui s'appelait Fille de Rien. Voilà, donc ça, c'est des gens qui sont eux de vrais auteurs de BD avec une vraie casquette qu'ils portent à plein temps, ou presque.
Ok. Donc, tu as continué ensuite par la suite avec du jeu de rôle. Tu en as sorti chez les grands éditeurs, les multinationales du jeu de rôle, hein, tels qu'on les connaît.
Ouais, c'est des grands trusts très puissants, c'est bien.
Voilà. Ça t'a ouvert apparemment la porte du jeu de société. Ils n'ont pas voulu de toi dans le jeu de rôle, tu as dû tourner vers le jeu de société.
Ouais, c'est plus que j'ai fait beaucoup de jeux de rôle jeunes, et puis c'est comme tout, on se lasse un peu au bout d'un moment, et j'ai redécouvert le jeu de société moderne. un peu avec à la même époque, et du coup j'ai un peu basculé d'un média vers l'autre. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui je fais plus du tout de jeu de rôle, oui, pratiquement plus d'ailleurs, mais par contre je fais beaucoup beaucoup de sociétés, et maintenant sur un plan professionnel, ce qui n'était pas le cas au début. J'ai commencé à surtout beaucoup jouer en passant toutes mes soirées à jouer plutôt qu'à travailler, et puis voilà, c'est devenu un travail, mais ça c'était pas prévu au début.
Et c'est ton boulot principal, le jeu de société, maintenant? C'est ton unique boulot, ou tu as un autre boulot à côté?
Alors moi j'ai été instit hein, pendant 4 ans, enfin un an de formation, j'ai exercé 3 ans. Et là aujourd'hui, on va dire que le jeu c'est 80% de mon activité, et depuis 2 mois en fait, je donne un petit coup de main à un éditeur de BD qui est un local hein. Moi j'habite Valence là, donc dans la Drôme, et je suis tombé un peu par hasard chez mon libraire BD sur ce gars-là qui a monté sa boîte d'édition, qui est une petite boîte qui a déjà 4-5 albums. Et qui, du coup, au moment où je l'ai rencontré, cherchait quelqu'un pour lui donner un coup de main, parce que, en gros, il faisait tout seul, de la sélection des projets, au suivi des dessinateurs, à l'impression, au commercial, au marketing et tout. Donc là, je travaille, on va dire, comme, entre guillemets, assistant éditorial, et je fais tous les petits boulots qu'il a plus le temps de faire, à savoir gérer les services presse, donner mon avis sur les projets qu'il envisage de signer, et toutes ces petites choses, mettre à jour le site internet, plein de petits trucs autour de la BD. Donc je reviens un petit peu vers la BD.
C'est quoi le nom de l'éditeur?
C'est Bac à BD.
Bac à BD, ça me dit quelque chose aussi.
Il a donné des titres, il a sorti, il y a eu les Délices d'Aphrodite, une BD, c'est surtout de l'humour, hein. Pour l'instant il y a pas mal de, c'est plutôt humour.
Ah, j'ai vu des images sur le net. C'est récent, ça.
Écoute, c'était la première année. Là, on est en 2011, donc ça va être la deuxième année d'activité de la société. Voilà, donc ça a à peu près un an et demi, je pense, on va dire, à la louche.
Comment est-ce que tu t'es retrouvé en partant, d'un milieu un peu petit, un peu restreint, à te retrouver quand même avec une belle bande dessinée chez Air Libre? C'est pas, pour un premier album, c'est pas mal, quoi, je trouve.
Et comme tu disais, c'est aussi un peu le jeu de rôle, parce qu'à l'époque où j'ai écrit donc Content Sorcelé, ça a été illustré par des auteurs de BD, et c'est pas un hasard, parce que c'était des gens qu'il y avait dans mon entourage. Donc en fait, avant d'être vraiment dans la BD, j'avais déjà des gens autour de moi que je fréquentais, pas sur le plan personnel et pas du tout professionnel, à qui j'avais demandé du coup de bien vouloir faire quelques dessins pour mes travaux en jeu de rôle. Mais j'avais déjà plusieurs personnes qui étaient déjà, à l'époque ils débutaient, mais ils avaient déjà, eux par contre, la ferme envie d'être auteur de BD, ils étaient à fond là-dedans. Ils passaient leur temps à dessiner et à courir les éditeurs à Angoulême pour essayer de placer leurs projets et tout ça. Et du coup, le dessinateur de Langue du Passé, Maël, faisait partie de ces gens que je connaissais déjà sur un plan personnel avant d'écrire, en fait. Et du coup, à force de fréquenter ces gens-là, je me suis dit, tiens, la BD, c'est chouette, et ils en font, pourquoi j'essaierais pas d'en faire? Et puis, si tu me vois dessiner, tu vas comprendre que c'était pas possible que ça soit comme dessinateur. La couleur, c'était pas trop mon truc, donc du coup, je racontais déjà des histoires un peu avec le jeu. Je me suis dit, ça peut être un exercice sympa d'essayer de raconter une histoire en bande dessinée, quoi. Donc je me suis mis à écrire deux, trois histoires. Donc à l'époque, j'étais encore étudiant, donc j'avais le temps, c'était bien. Et je suis arrivé avec cette histoire, L'encre du passé, hein, qui s'appelait pas du tout comme ça à l'époque. Le premier jeu, je l'ai écrit en 2003. C'était ma dernière année d'études. Je faisais des études de jeux vidéo. Alors, toi, c'est pour te dire, j'avais le temps d'écrire.
Et tu t'es retrouvé un site? Ah, bravo.
Je suis retrouvé un site de jeux vidéo. Il y avait pas trop de boulot, en fait, à l'époque. Ou alors, fallait partir à Shanghai et ça me branchait pas trop à l'époque. Donc, je me suis réorienté sur un deuxième truc qui me plaisait bien. C'était l'enseignement. Mais, voilà. À la base, je voulais faire du jeu vidéo. Donc, à nouveau, j'étais dans l'écriture, même si c'était pour le jeu vidéo. Donc, ça collait bien. Et j'ai écrit le premier jet de Langue du Passé, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour savoir si mon boulot tenait la route? J'ai demandé aux gens que je connaissais, qui étaient eux des auteurs de BD, de me donner un avis le plus objectif possible sur mon travail. Et j'avais des auteurs sous la main, c'était le meilleur moyen d'avoir des retours, quoi. Et donc j'ai fait lire, entre autres, le scénario de Langue du Passé, qui s'appelait Moitsu, à l'époque, c'était le nom du protagoniste, le nom du projet. Et le temps qu'il le lise, il m'a envoyé un SMS, si je me souviens bien. J'ai reçu le SMS et c'était, écoute, j'ai vraiment aimé l'histoire, et à tel point que j'aimerais, faut qu'on se voit, qu'on en discute, parce que j'aurais envie de la dessiner, en fait, quoi. Et du coup, Langue du Passé a démarré comme ça, sur une demande d'avis, qui a su accrocher le dessinateur, donc Bael, voilà. Ça, c'était fin 2003, je pense, de tête.
Ok. Et pour la méthode de travail, vous avez fonctionné comment pour ensuite, alors, une fois, ouais, que dire, le choix a été fait de travailler ensemble?
Ça a été compliqué. Hein. Donc là, il faut voir qu'on est en fin 2003 et on a dû signer le projet, je pense que c'était en 2007. Donc ça a mis, il y a eu 4 ans et c'était pas 4 ans en temps mort, il y a eu pas mal d'étapes. À l'époque, donc Maël a présenté le projet à son directeur éditorial qui depuis a changé de... C'était, je sais plus son nom, Jean Drou, son nom de famille, je sais pas son prénom, qui depuis a changé de maison d'édition et du coup, lui il est passé de chez Dupuis à chez Futuropolis, sous réserve, j'espère que je dis pas de bêtises, comme je l'ai dit, je suis pas un expert du milieu de l'édition de la BD, mais je crois que c'était ça. Et du coup, le projet, lui, est resté chez Dupuis et est tombé dans les mains d'un autre directeur d'édition chez Dupuis qui s'appelle José Louis Boquet, qui a aussi bien aimé le projet et qui, du coup, a dit, ok, les gars, on va se mettre à travailler sur ce projet-là. C'était pas prévu au début, c'est pas moi qui devais m'en occuper, mais j'accroche à votre histoire et à votre univers, donc allons-y. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était à la base l'histoire. Alors vous l'avez lu, bien sûr. L'histoire, il y a deux tranches temporelles. Hein, il y a une espèce de à la mousquetaire de 20 ans après. Toute la partie du 20 ans après n'était pas du tout dans la première version de l'album. Donc c'était un 54 planches qui se terminait. Bon, l'histoire a changé, mais grosso modo sur la première période temporelle. Et à l'époque, ils nous ont dit ouais, c'est une belle histoire, mais il faudrait la développer. Faites-nous 2 tomes. Donc réécriture, on a fait 2 tomes. Le problème, c'est que dans le deuxième tome, en termes de matière, il n'y avait pas de quoi refaire 50 planches. Donc finalement, ils ont dit refaites un tome, mais du coup, on vous laisse une pagination de 80, ce qui est assez rare. Hein, c'est surtout oui. Sur le premier album, c'est pas évident qu'ils te laissent une marge de manœuvre comme celle-là. Mais on est passé de 1 tome à 2 tomes, puis on est revenu à 1 tome, on va dire à 1 tome fusionné, la totalité de l'histoire en 1 tome. Donc il y a eu une très très longue période de réécriture, en fait. C'est ce qui a pris le plus de temps, finalement.
Et donc il y a eu un vrai travail d'édition, quand même, derrière. On entend souvent parler, au niveau de la bande dessinée, que les éditeurs, de plus en plus, acceptent quasi ou pas quasiment les projets tels quels, tellement ils en reçoivent, en fait. Là, il y a eu un vrai boulot derrière.
Ouais, tout à fait. Ce que tu dis, j'ai l'impression, n'est pas faux. Moi, comme tu dis, je suis pas complètement dedans, mais c'est un sentiment que j'ai aussi eu l'impression d'avoir. Et là, pour le coup, il y a vraiment eu, on n'a pas du tout fait ce qu'on a voulu. Hein. On a quand même été drivé, notamment en termes de format, principalement en termes de format. On a presque plus été drivé en termes de format qu'en termes de contenu, en fait, je dirais.
Qu'est-ce qui t'est venu d'abord sur l'encre du passé? C'est d'abord l'ambiance ou vraiment l'intrigue qui t'est venue? Est-ce que c'est l'ambiance japonisante qui t'a inspiré l'histoire ou est-ce que t'as trouvé l'histoire et que ça a collé avec l'ambiance japonisante?
Non, j'étais vraiment dans le Japon est vraiment arrivé en premier. Hein. Moi, je suis un grand amateur de Japon. Hein. C'est un pays, une culture que j'adore. Donc voilà, c'est pas un hasard si tout ça se passe au Japon. Et l'idée, c'était vraiment de donner une image du Japon qui était un peu en décalage avec ce que j'avais lu, alors pas forcément tout ce qui existe, mais ce que j'avais lu sur le Japon. Et sur le Japon, on voit souvent les grands clichés qui reviennent, donc des samouraïs, des geishas et compagnie. Donc moi, je voulais essayer de donner une vision du Japon qui me plaisait moi, donc loin de tout ce qui était, on va dire, les grands classiques qu'on voit traité en BD et ailleurs, d'ailleurs, hein, au cinéma ou quoi que ce soit. Quoi. Donc c'était vraiment, avant l'histoire, c'était vraiment faire quelque chose qui parle du Japon et du Japon qu'on a moins l'habitude de voir en Occident, en tout cas.
Et pour préparer justement l'histoire, tu as fait des recherches particulières ou tu avais déjà, on va dire, toi, en connaissance assez pour...
Oui, j'avais la plupart des choses en tête. Hein. Faut savoir que quand je l'ai écrit, j'étais pas encore allé au Japon quand même. Mais bon, moi je lis des mangas depuis bien avant qu'on commence à les traduire en France, toi, depuis j'étais au tout début du lycée quand les premières traductions arrivaient. Donc Japon, voilà, nous les longs métrages de Ghibli et de l'époque, on les récupérait en VHS avec des transcodeurs pour pouvoir les passer du NTSC sur nos vieux magnétoscopes. Donc moi, je suis vraiment un fan de toutes ces œuvres qui maintenant ont été reconnues, et tant mieux depuis le début. Donc, c'est vrai que le Japon, J'ai fait du japonais, j'ai appris la langue, je la parle très mal, mais je l'apprends en autodidacte. Je pratique les arts martiaux depuis très jeune, donc c'est vraiment une culture que je connaissais déjà avant de me lancer dans le projet. Après, bien sûr, au niveau historique, je suis allé chercher quelques références pour pas dire de grosses bêtises. Mais disons que tout ce qui est le bain culturel, si tu veux, je l'avais déjà avant de me lancer dans l'histoire. Après, c'est plus sur des points historiques, pour être sûr de pas sortir du cadre, que je suis allé faire quelques recherches.
Ah, t'es passé du jeu de rôle au jeu de société à la BD. Est-ce que c'est pas une volonté de séparer le côté mécanique, ludique, et le côté narration au niveau de l'histoire?
C'est une bonne question. Je te dirais qu'il y a quand même des points communs entre la création d'un jeu et la BD. C'est sûr que la narration a pas le même rôle, mais quand tu fais un jeu, t'as quand même une part narrative. C'est sûr que c'est un média qui est beaucoup plus mathématique que l'écriture, quoi. Je te dirais que si j'étais moins flemmard et si j'étais plus à l'aise avec la narration, j'aurais bien envie d'écrire plus de BD. Mais comme ça m'est quand même plus facile de faire des jeux, ben, tu vois, je vais bêtement vers la facilité, un peu par flemme, il faut bien le dire. J'ai plein de projets d'histoire dans mes cartons où, bon, là, maintenant, j'ai plus le temps, mais à la base, c'est surtout que j'avais pas la motivation pour me lancer dedans. Je te dirais que la grosse différence, c'est que le jeu, je peux le faire tout seul dans mon coin jusqu'à ce qu'il soit terminé. La BD, j'ai du mal à écrire une histoire, tu vois, sans que le dessinateur y soit associé tôt. Et du coup, j'ai du mal à motiver, voilà. Écrire une histoire, sachant que après, une fois qu'elle est finie, il faut que je trouve le dessinateur. Je trouve ça pas motivant, quoi. Écrire un jeu, comme tu joues avec des gens dès le début du projet, tu vois, t'es toujours en interaction avec déjà ton public, quoi. Et ça, c'est vachement différent. C'est vachement différent de la narration et entre autres de la BD.
Mathieu,
ça vous laisse sans voix.
Oui, c'est beau comme réponse. Tu parles bien.
Et au niveau du travail, vas-y, pardon.
C'est vraiment la différence majeure. Je pense qu'il faut peut-être l'avoir fait pour se rendre compte. Mais t'es vraiment tout seul quand t'écris une histoire, surtout en BD, où les éditeurs quand même aiment que tu viennes avec déjà ton dessinateur, déjà ton truc tout ficelé pour leur montrer presque un produit terminé, quoi. Et c'est quelque chose qui est que je trouve pas facile en termes de motivation, parce que bah t'es dans ton coin, t'écris dans ton coin. Là, sur l'encre du passé, tu vois, avec toutes les réécritures qu'il y a eu, toutes les réécritures ont été faites avec Maël, avec le dessinateur. Donc, on a eu des discussions, des échanges. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans tout ce qui est créatif. C'est pas être seul dans mon coin, c'est être en interaction, pas forcément avec le lectorat, parce que ça arrive plus tard. Mais déjà, avoir un mini travail d'équipe, même si l'équipe, là, c'était deux, parce que c'est lui, il n'y avait pas de coloriste, c'est lui qui a fait la couleur. Et déjà, deux, bah, c'est très différent d'être tout seul dans son coin, quoi.
Ça, c'est clair. Mais au niveau du travail que tu as eu avec Maël, le style graphique de l'encre du passé était directement choisi, ou il y a eu des essais justement pour tendre vers quelque chose qui vous convenait tous les deux?
Il y a eu pas mal d'essais, alors, parce que contrairement à moi, Maël, c'était pas du tout un amoureux du Japon. Donc lui, par contre, au niveau en termes de documentation, il y a eu une grosse phase de documentation où il est allé voir des peintures. Je lui ai prêté toute ma DVD tech de films japonais, donc que ça soit les Kurosawa ou des références un peu moins connues. Donc lui, il a fait vraiment un gros boulot d'immersion, on va dire, en termes d'image pour arriver à coller à l'univers. Après, très franchement, j'ai pas été un guide dans le style qu'il a choisi. Typiquement, le protagoniste Moitsu, quand il m'a présenté les premiers croquis, je le voyais, il était pas du tout comme ça dans ma tête, quoi. Là, je t'avoue que j'ai simplement fait confiance, tu vois, au dessinateur qui a plus d'expérience que moi, donc il le voyait comme ça. J'ai dit OK, partons comme ça. Et puis les planches dessinant, je me suis habitué. Et puis maintenant, je le verrai pas différemment, si tu veux, quoi. Mais là, je t'avoue que je m'en suis remis au dessinateur qui a eu plus d'expérience que moi, donc j'ai plutôt fait confiance sur tout ce qui était choix graphique. Très clairement, c'était lui le patron. L'éditeur était derrière aussi sur certains points, mais là, moi, j'ai plutôt suivi le mouvement, tu vois, comme un petit débutant qui regarde un peu et qui apprend en même temps, quoi.
Donc là, actuellement, t'as fait d'assez gros coups au niveau jeux de société. Il y a Seven Wonders qui est sorti et dont on parle beaucoup, 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 beaucoup. Au niveau de la BD, donc toi, tu es, on va dire, conseiller éditorial chez Baka BD. Tu parlais à un moment aussi, il y avait des jolis sur ton site, il y avait des jolis graphiques qui annonçaient l'état d'avancement de tes projets. Je les ai pas retrouvés. Et il y avait un projet de BD western derrière. fait, quels sont tes projets BD? Est-ce que tu penses te remettre à l'écriture ou continuer à te concentrer sur le jeu de société? Est-ce qu'apparemment t'as plein d'idées qui n'arrêtent pas de tomber?
Ouais, bah il y a une question d'idées. Il y a aussi un fait qui est bassement matériel, c'est que pour l'instant c'est le jeu qui me fait vivre, donc qui me fait manger, donc du coup je peux pas. Du coup, ça, forcément, il a la priorité sur l'écriture en fait. Hein. Après, j'ai pas mal de projets. Là, je suis en train de discuter avec un dessinateur sur un projet médiéval humoristique que j'ai écrit presque à la même époque. Donc, tu vois, un très vieux projet que j'ai eu le temps de réécrire au moins 10 fois depuis, quoi. Et j'avais envie d'écrire un peu pour la jeunesse. J'ai écrit un peu 2-3 histoires. Et donc, j'avais bien envie de faire un format court, un 32 planches. Et donc, j'avais un projet de western humoristique jeunesse, dont j'ai écrit le premier jet l'année dernière, comme tu as dû le voir à l'époque sur les jauges. Et si j'ai enlevé les jauges, c'est parce qu'elles avançaient pas, donc ça se voyait du coup. Et voilà, dès que j'aurai le temps, j'aimerais bien pousser en avant ces projets-là. Mais une fois de plus, tu vois, j'ai pas envie de... Enfin, ça m'embête de terminer mon histoire et après de la présenter à un dessinateur, quoi. Enfin, je crois que la BD, c'est vraiment... quand tu scénarises, c'est vraiment, en gros, permettre au dessinateur de sublimer une histoire. Donc, pour moi, il faut qu'il arrive... Qu'il arrive pas trop tard dans le projet, quoi. Au moins pour donner son avis, apporter ses idées et tout. Donc, toi, c'est un projet dont j'ai le premier jet, il est clairement pas éditable. Mais j'aimerais bien avoir quelqu'un qui soit prêt à se lancer dedans avec moi et du coup, mettre au point le scénario, le réécrire, l'affiner en ayant déjà la personne qui va le dessiner et qui m'apporte son point de vue sur le projet, quoi. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure et c'est ce qui fait que je suis motivé dans les premières phases de l'écriture. Parce que j'ai une idée, t'as envie, ouais, elle a l'air bien, tu la développes. Puis à un moment, j'ai pas l'envie d'aller plus loin s'il n'y a pas quelqu'un qui commence à la mettre en image, parce que bon, la BD c'est ça, faut que t'aies la mise en image qui arrive. Voilà. Alors je sais que il y en a qui arrivent très bien à la voir qu'à la fin. Moi j'ai vraiment besoin qu'elle soit là tôt en fait.
Ok. Et chez Bac à BD donc, vu que c'est quand même un de tes boulots maintenant, au niveau des projets, c'est un petit éditeur. Tu dis qu'ils ont fait 5 albums l'an dernier. Il y a des projets de nouveaux auteurs à sortir. En plus, là, t'as le pied dedans. Tu pourrais passer tes projets en douceur.
Oui, je pourrais en profiter, c'est sûr. Mais comme je te dis, le problème, c'est pas de les placer, c'est de les concrétiser. Donc là, l'idée, c'était plus que l'édition, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Donc c'était la bonne opportunité de voir un peu, on va dire l'envers du miroir, quoi. Et c'est intéressant parce que je suis amené à lire des projets, du coup, de voir comment ils sont envoyés à des... Enfin, tout ça, c'est à la fois un boulot alimentaire parce que ça me permet d'avoir des fins de mois un peu plus prévisibles. Et en même temps, c'est vachement intéressant de voir tous les rouages de l'autre côté du miroir, quoi. Donc, c'est intéressant aussi. Peut-être que dans 3 ans, si j'ai l'opportunité de trouver un poste dans une société d'édition BD, je le ferai. Peut-être que ça sera en jeu de société, tu vois, parce que même si le média est différent, finalement, les mécanismes éditoriaux sont les mêmes. Hein. On cherche un projet, on regarde quel est le meilleur illustrateur pour le mettre en image, on le budgète. Finalement, c'est à peu près la même chose, quoi, en termes éditorial, en tout cas. Donc non, j'en profite pas pour placer mes projets. J'essaye déjà de faire le boulot pour lequel je suis mandaté. Et ça me prend déjà du temps, donc voilà, quoi.
Bon, bien, nous allons passer à notre rubrique presque neuf. En gros, on t'a posé quelques questions pour que tu sélectionnes des BD. On en a retenu la plupart. Dans les plus récentes, en gros, tu nous as parlé de 2 bouquins qu'on a déjà chroniqués dans le One A Club. Tu nous as parlé d'abord de 100 Bullets.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et 100 Bullets, tu nous en as parlé plus particulièrement en disant que c'était une bande dessinée de ton scénariste préféré.
Scénariste préféré, je t'avoue que je suis pas sûr d'avoir lu autre chose que 100 Bullets, mais c'est clairement en 2010 qui scénaristiquement m'a le plus accroché, quoi. Alors graphiquement aussi, hein, on peut parler de beaucoup ce qui a été fait au niveau visuel, mais clairement au niveau des scénarios, disons que j'ai une espèce d'overdose à un moment en BD franco-belge après toute cette grande vague d'albums qui étaient des trucs de trentenaires mal dans leur peau et compagnie, ou de BD un peu bobo ou compagnie, et c'est vrai que trop tomber sur un bon vieux scénar un peu noir, un peu trash par temps, bien écrit avec des tiroirs et tout, c'était un vrai plaisir. Je lis pas tant que ça de BD franco-belge finalement, et j'aime bien changer, passer du manga de temps en temps, et là en comics l'année dernière, ouais, c'est clairement... Toi, j'achète très peu de BD parce que j'ai un libraire très gentil qui me les prête. Donc je n'achète que les trucs que je suis sûr de relire, et voilà, dans les dans l'achat comics de 2010, j'ai juste acheté tous les tomes de 100 Bullets, très clairement, et j'attends la suite à chaque fois avec impatience.
Ouais. Tu les lis en VO ou en VF?
Alors, je les lis en VF, malheureusement, parce qu'il les a pas en VO. Il faudrait que je me les procure en VO. Hein. Je préférerais, c'est vrai. Là, j'avoue que c'est un peu, j'ai un peu honte, mais non, je lis les VF.
Ouais, on les lit aussi en VF.
M'ont l'air très correct. Enfin, en tout cas, en termes de dialogue, on l'air plutôt bien. Tiennent bien la route, donc je pense que c'est plutôt une bonne trame, mais si j'ai l'occasion de mettre la main sur les VO, je pense que je le ferai.
Ouais, le scénariste a un blog et de temps en temps il explique 2-3 problématiques qu'il a principalement avec 100 Bullets, c'est le nombre de références qu'il peut y avoir parfois sont pas forcément faciles à gérer. Comment est-ce que tu pitcherais 100 Bullets niveau de l'intrigue, parce que scénaristiquement, c'est vrai que tu disais c'est intrigue à tiroir, c'est un peu compliqué. Comment est-ce que tu pitcherais ça?
C'est une très bonne question. Ce qui est un peu fourbe, c'est qu'en fait l'intrigue arrive très très tard. Elle se met en route très tard. Finalement, tout le début, c'est un peu de la préparation. Il te met bien dans le vent. Mais bien dans le vent, en fait, sur la réelle intrigue dès le début, c'est ça que j'ai trouvé très appréciable. De là, te le pitcher, bah, c'est simple, c'est on vient de voir. Alors généralement, t'es dans une situation, t'as pas une vie facile. On vient de voir un jour et on t'explique que, en gros, tous tes soucis, que ça soit personnel, professionnel, humain, ce que tu veux, sont la responsabilité d'une personne, et on t'apporte la preuve de cette responsabilité. Et on te donne de quoi, en gros, régler ton problème. Donc, un flingue et des munitions non traçables. On te dit, de toute façon, si tu entreprends quelconque action contre cette personne, tu ne seras jamais poursuivi par les forces de police. On te garantit que ça sera complètement invisible. Donc, et on te laisse avec le choix, en gros, de ces histoires de vengeance à la base, de te venger ou pas. Sachant qu'on te garantit, noir sur blanc, qu'il n'y aura aucune conséquence, si ce n'est ta vengeance, quoi.
Ok, et donc après, donc les intrigues d'un tiroir qui arrivent, on apprend pourquoi est-ce qu'il fait ça petit à petit, quelle est l'origine. T'as pas l'impression que parfois c'est un peu alambiqué et un peu compliqué à suivre, qu'il faut un peu tout relire pour comprendre où on en est?
Ouais, ben très clairement, on retrouve quelque chose qui est un comportement que j'ai tendance à avoir. Moi, j'aime bien lire les séries quand elles sont terminées, en fait. Là, j'accroche, donc je l'ai lu au fur et à mesure, mais très clairement, c'est une série où je sais déjà que je prépare ma deuxième lecture, en fait. Je sais que je les lis tome à tome, et dès que j'ai le dernier, je sais que je vais reprendre la pile et recommencer depuis le début. Mais c'est quelque chose que je fais sur une série de 3 tomes en BD franco-belge. On sait que les albums, ils sortent facile à un an et demi. Et il y a plein d'albums que j'ai dans ma bibliothèque et j'ai pas lu parce que j'attends que le dernier soit là, parce que j'aime bien tout lire. Dans une histoire comme 100 Bullets où ouais, ça part quand même dans tous les sens, je t'avoue qu'il y a des trucs que je ne pense ne pas avoir compris à ma première lecture, hein, très clairement. Mais ça gâche pas mon plaisir parce qu'il y a déjà plein de choses à faire. Et je sais que quand j'aurai le dernier, j'y reviendrai et qu'à la deuxième lecture, du coup, elle sera peut-être encore plus agréable parce que je vais récupérer toutes les choses que j'ai ratées à la première. Donc ça me dérange pas plus que ça.
Sachant que c'est déjà fini, en fait,
oui.
Tu sais ça, et qu'en France, ça sort assez lentement. Hein.
Mais ça sort pas très vite non plus, les numéros.
Il y a eu une accélération, j'ai l'impression. Là, le tome 12 sort là.
Maintenant. C'est ça, moi j'en suis à 11, donc écoute, j'irai vérifier ça à la librairie rapidement.
Donc au moment où l'émission sera en ligne, je pense qu'il sera sorti.
D'accord.
Ok. Et à côté de ça, tu nous as parlé d'un autre truc dont nous aussi, on a beaucoup aimé.
Beaucoup aimé, beaucoup suivi, c'est Pluto.
Ah oui, Pluto, oui. Très bien, Pluto. Bah, Urasawa, hein, je pense. Voilà, quelqu'un qui a plus rien à prouver. Moi, j'ai adoré 20th Century Boys, Monster, ça c'est vraiment des séries en manga. Pareil, tu vois, dans les séries que j'ai achetées et que je garde, finalement, il n'y en a pas tant que ça en manga non plus. Et ça fait partie des séries que j'ai acheté, je sais que je relirai, alors je sais pas quand je les relirai, mais c'est sûr que je les relirai. Et du coup, ce qui est vachement intéressant dans Pluto, c'est que je crois que c'est 8 tomes de prévu, il me semble, je vais pas dire bêtises.
Il me semble, ouais.
Donc c'est une série courte à côté des précédentes quand on faisait 40. Et j'ai quand même commencé à les lire, parce que mon libraire m'a dit, il faut que tu les lises. J'avais prévu d'attendre la sortie des 8, et puis finalement, je me suis laissé entraîner, j'ai lu les 4 premiers. Mais je relirai les 8, pareil, quand les 8 sont sortis, mais j'ai trouvé ça voilà très bien. Bon, moi, j'étais déjà un fan, en plus, je trouve la référence à Astro Boy est tellement bien amenée, maligne, intelligente et respectueuse de l'œuvre originale que je trouve ça vachement... Enfin, c'est un exercice de style, en plus, d'un très bon manga qui est qui est super intéressant. Donc c'est une série à lire et faut en profiter parce qu'il y en aura 8 et pas 70 comme savent le faire les Japonais.
Ouais. Tu dis que t'aimes bien lire les séries en entier quand elles sont sorties. Ça te tu trouves pas intéressant? Moi je sais que c'est quelque chose qui me plaît, même si ça me frustre aussi hein, d'avoir ce suspense de fin de tome à te dire oh, mais qu'est-ce qui va se passer dans le prochain.
C'est ouais, il y a le pour et le contre. Hein. C'est sûr que c'est intéressant. Moi, je t'avoue que j'ai plus tendance après à lire un deuxième tome et à pas me rappeler du premier. Et ça, enfin, tu vois. Donc, y a, ouais. Sur une série à suspense, à la limite, ça marche. C'est vrai que tu vois, ça marche. Les 100 Bullets, à chaque fois, à la fin, j'ai envie de savoir le tome d'après. Donc, je vais le lire. Je vais l'acheter. Je vais le lire. Mais moi, j'aime bien quand même avoir la totalité de mon œuvre. Tu vois, la poser sur ma table de nuit, savoir que tout est là. Voilà, et pas de dire que je vais reprendre la lecture 6 mois après ou pendant ce temps j'aurais vu 300 films, j'aurais vu des séries et tout, et de toute façon il faudra que je recommence à zéro parce que j'aurais perdu la moitié du début quoi. Mais sur le côté suspense t'as raison, c'est ce qui fait que ça marche pour certaines et que tu vas quand même, et que je vais quand même acheter la suite alors que je sais très bien que là, ce sera un an plus tard quoi.
Sur Pluto, la base donc c'est inspiré d'une histoire d'Astro Boy. Tu l'as lu l'histoire originale ou pas?
Alors je l'ai lu, mais il y a très longtemps, donc ça m'a donné envie de la relire, tu vois, très clairement. Ouais, je sais qu'après Pluto, je vais aller relire les Astro Boy, surtout le, je sais plus le nom de l'histoire d'Astro Boy. Je crois que c'est le robot le plus fort du monde ou quelque chose comme ça.
J'aime bien, j'en ai un sous les yeux.
Je crois que c'est ça, ouais.
Je pense qu'il doit citer, c'est une œuvre, c'est un Astro Boy en particulier. Je crois que c'est le plus fort du monde.
C'est ça, le robot le plus fort du monde.
Voilà, donc ça, je relirai du coup l'œuvre originale. Mais c'est vachement bien parce qu'en plus, du coup, ça te permet de retomber sur des œuvres, on va dire, de l'ancienne école que tu n'aurais jamais relu sinon. Ça, c'est. Enfin, bravo, monsieur Urasawa, quoi, très clairement.
Tu trouves pas qu'en faisant une écriture très noire, qui est sa patte à lui, il s'éloigne pas un petit peu de l'ambiance qui avait l'air un peu plus bon enfant qu'on avait dans Astro Boy?
Ben, moi c'est ce que j'aime, moi j'ai toujours aimé les quand t'as une espèce de contraste comme ça, tu vois, entre c'est pour ça que j'aime le Japon hein. C'est un pays qui est plein de contrastes entre modernité, tradition, toute chose. Donc moi j'adore quand on justement si c'est pour refaire un Astro Boy qui est dans la même veine, moi ça va pas m'accrocher. Moi j'aime bien quand t'as une lecture comme ça qui du coup fait comme tu le dis et pas du tout en fait dans l'esprit d'Astro Boy qui était quelque chose plutôt grand public, bon enfant, finalement assez optimiste malgré les problèmes qui étaient mis en scène. Là on est dans un truc on va dire ouais, plus noir, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que on prend un angle de vue qui est complètement différent, et c'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui justifie le fait que tu fasses une réécriture, quoi. Faire une réécriture dans le même sens, ma foi, tu risques juste de faire quelque chose de moins bon que l'original, et du coup, tu vas souffrir de la comparaison. Si tu fais un truc à l'opposé, ça va sûrement pas plaire à tout le monde, mais au moins, t'as au moins ce parti pris, on va dire, artistique, d'avoir tenté quelque chose de nouveau, quoi.
Bien, on va passer au rattrapage. Donc rattrapage, des trucs un petit peu plus vieux, enfin quoique plus ou moins vieux. Et on va démarrer par quelque chose qui change bien totalement de Pluto. On attaque sur Hellboy.
Très bien, très bonne série. Je les ai aussi, tu vois, ça fait partie des séries que j'achète quand même, malgré mon petit appartement.
Tu nous l'as décrit Hellboy, apparemment c'est le côté graphique qui te bluffe le plus, vu que tu nous l'as cité comme étant une des BD de ton dessinateur préféré.
Ouais, bah, Mac Mignola, moi, enfin, il a un dessin que je trouve, d'une puissance et d'une simplicité. Enfin, la simplicité et la puissance sont la même chose dans son dessin. C'est vrai que j'adore. Cela dit, faut pas mettre en retrait. Je trouve qu'il a de très bonnes histoires. Enfin, il a des histoires qui, en tout cas, me plaisent beaucoup aussi. Même si, on va dire que mon œil a été attiré d'abord par son dessin. J'aime beaucoup les univers qu'il exploite. Ce côté un peu steampunk, un peu pulp et tout. C'est des, il a des, surtout ses histoires courtes, hein. Je sais pas si vous avez lu, il écrit pas mal d'histoires courtes, que ce soit Hellboy ou L'homme à tête de vis. Et je trouve qu'il arrive à faire des histoires courtes qui sont juste bien rythmées, avec le bon contenu narratif, plus la puissance de son dessin, que, ouais, moi j'adore, ça reste un des dessins que je trouve le plus efficace, en fait. Hein. Je suis fan, définitivement, de Mignola, je suis fan. Si t'as une planche originale que tu sais pas quoi en faire, je t'enverrai mon adresse postale juste après l'émission.
Je crois 2-3 euros,
enfin on s'arrange.
D'accord, mais je pense que si j'avais une planche originale, elle serait bien bien affichée, sous verre blindé.
Non.
Non?
Non, parce que ta femme elle aurait dit non.
Ouais, ça peut être plus problématique. Faut qu'on voit que mon
épouse. Mignola aussi, donc là il y aurait pas de souci, elle serait d'accord. Pas de problème.
Faudra que tu nous présentes ta femme.
l'occasion, mais je présente ma femme. Trouve-moi une planche originale de Mignola, je te présente ma femme.
Voilà, là, les échanges qu'on est en train de faire. Comment tu raconterais Hellboy? Qu'est-ce que ça raconte?
Qu'est-ce que ça raconte? Oh là là, c'est difficile, je ne l'ai pas lu depuis longtemps. J'ai du mal là, tu me poses une colle. J'ai peur de te faire un pitch qui soit pas du tout attractif pour l'auditeur là. Non, mesquinement, je vais te renvoyer la balle et dire redonne-moi envie de relire Hellboy depuis le début, s'il te plaît.
Bon, bien, Hellboy raconte. Je me base. Alors, pareil, j'ai le problème, je les ai pas lus depuis longtemps et je les ai pas tous lus en fait. Je me base sur le film qui est assez bien foutu là-dessus, que j'ai trouvé. J'ai pas vu le deuxième, j'ai vu juste le premier, mais le premier qui est assez fidèle, j'ai trouvé. En gros, ce sont des Américains qui empêchent une invocation faite par des nazis dans les années 40 sur une île. Sauf que l'invocation de forces démoniaques a à peu près réussi et tout ce qui en ressort, c'est une sorte de bébé démon et qui est recueilli par un des professeurs, un scientifique qui était là pour analyser le phénomène et qui va donc élever cet enfant qu'ils appellent Hellboy. Et à partir de là, on voit que ce scientifique a monté avec le temps une structure, le BPRD, qui sert à gérer et à enquêter sur tous les phénomènes un peu paranormaux qu'il y a dans le monde. Et Hellboy, la série, s'amuse à suivre de façon assez anachronique, enfin anachronologique, je dirais, c'est un peu dans le désordre, l'évolution de ce personnage, du BPRD, etc. Donc on sait qu'Hellboy, à un moment, quitte le BPRD, mais parfois on a des épisodes où il est de nouveau dedans. Et ainsi de suite. On apprend des choses sur son enfance, sur son origine et pourquoi est-ce qu'il est sur Terre.
Voilà, tu pitches bien mieux que moi, donc j'ai bien fait de.
Non, on a quelques émissions de. D'entraînement. Qu'est-ce qui te dans ce pitch-là, c'est quoi qui t'a branché? C'est le côté ambiance Lovecraft, le côté bourrin, parce que c'est quand même assez bourrin.
Non, c'est pas. À la base, ça va être plus le côté Lovecraft, pulp, tout ce qui est ces histoires nazies, technologico-magiques, deuxième guerre. Ça c'est un univers que j'aime bien. Et le personnage est quand même. C'est un vrai régal. Effectivement, dans son côté bourrin et surtout dans ses réparties et ses répliques qui sont toujours qui sont bourrins mais qui sont toujours malines et bien senties. C'est vrai que c'est un personnage qui est super attachant pour ça, quoi. Et c'est quand même effectivement un personnage bourrin, mais c'est quand même le personnage qui est pas à sa place dans l'univers où il évolue. Et ça, c'est toujours intéressant. Et je trouve que Mignola n'oublie pas il est pas dans son monde, quoi. Et à chaque fois, il arrive à garder au-delà des enquêtes du bourrin, des nazis et tout ça, il arrive à traiter quand même le côté Hellboy n'est pas dans son monde et du coup, il souffre quand même de ça. Ça doit être un personnage très puissant. Il souffre vachement de sa position d'extraterrestre, quoi, en quelque sorte, et ça, je trouve que c'est... Encore une fois, tu vois, on est dans les trucs très contrastés, j'aime bien, parce que c'est à la fois des histoires avec des nazis, on se tape dessus, c'est bourrin, et à la fois, il y a une dimension à l'opposé, où c'est finalement une histoire de quelqu'un qui cherche sa place dans un univers qui n'est pas le sien, donc là, nouveau, toi, t'es une espèce de contraste. C'est toujours des histoires comme ça qui me parlent le plus.
Ouais. T'as pas l'impression que la série... Alors, tu parlais... Comme quoi Mignola gérait très bien ses histoires courtes, mais que justement elle fait pas beaucoup d'histoires courtes sans faire avancer l'intrigue. L'intrigue d'Hellboy avance très lentement sur le temps, quoi.
Oui, c'est vrai. Alors je sais pas du tout comment ils s'organisent sur l'écriture, mais finalement ce que j'ai préféré, c'est plus les histoires courtes, parce que peut-être justement dans la trame principale, il se passe finalement moins de choses ou c'est moins percutant. Et je relirais plus volontiers les histoires courtes finalement que la trame principale. Alors ça faudrait demander à l'intéressé. Je sais pas comment il s'y prend pour. Est-ce qu'il le fait volontairement lentement? Est-ce que finalement je sais pas s'il y a une raison on va dire volontaire de le faire comme ça. Ça je saurais pas te dire.
Ok. On enchaîne.
Alors on enchaîne avec le Commando Colonial.
Ah, excellent.
Il faut que tu nous en parles parce que moi je sais pas du tout ce que c'est.
Tu l'as pas lu?
Non.
Alors c'est de Bruno Audessin. Alors là, tu m'obliges à sortir les références de tête. Là, j'aurais dû préparer. J'ai pas du tout préparé ma copie. C'est Bruno Audessin et au scénario c'est. Enfin, pour m'aider. Apollo, c'est ça? Non, vous m'aidez pas.
Il me semble que c'est Apollo.
Les CMDR, ouais, c'est un binôme qui a déjà, c'est celui qui avait fait Biotope, que j'ai pas lu, mais que j'ai sur ma bibliothèque. Je crois que c'est le même binôme. Alors, j'adore le dessin de Bruno. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait presque faire un parallèle avec Mignola, c'est qu'il a une espèce de dessin qui est très, à la fois simple et à la fois puissant. Et il a une super gestion de la couleur. Moi, j'adore sa gestion de la couleur. Il arrive à faire passer des ambiances tout à la plat et à l'ancrage. Je trouve ça très, très bon. Donc, Commando Colonial. Moi, j'en ai lu trois. Je crois qu'il y en a trois de sortie. C'est pareil, j'ai pris les trois d'un coup chez mon libraire. Et c'est l'histoire, c'est la deuxième guerre, mais du côté où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc à chaque fois, c'est des scénarios qui prennent place dans des colonies et qui mettent en scène deux agents. Donc je serais incapable de te donner les noms ici, vu que je n'ai pas du tout préparé ma copie. Mais j'ai trouvé ça pareil en termes de narration. C'est juste, il y a juste ce qu'il faut. Il y a la bonne quantité de dialogue, l'intrigue est bien ficelée. C'est pas trop bavard, moi j'aime pas du tout les. Je lis pas du tout les BD, on en a pas parlé, mais je lis pas du tout les BD où il y a autant de textes que d'images, ça je le supporte pas. Moi, bah, d'ailleurs, si t'as lu L'encre du passé, tu as remarqué que ça parlait pas tant que ça.
Ouais, mais c'était ça qui rendait. Enfin, il y avait les dessins de Maël qui aidaient aussi au niveau de la narration à conserver une ambiance vraiment prenante dans L'encre du passé. Il y avait en fait, les silences étaient très très bien gérés, je trouve. C'est ça qui était intéressant, tous les non-dits. Et disons que tu l'as bien amené scénaristiquement, je trouve, et que Maël a réussi à le mettre en scène de façon à ce que on soit bien dedans. Quoi.
Bah, l'aspect contemplatif, te fait vraiment, je pense, adhérer à l'histoire. Quoi. Tu es vraiment plus grâce à ça, quoi.
Où, les gens qui n'ont pas adhéré, il y a aussi des gens qui n'ont pas adhéré. Tu vois, c'était un parti pris qui était fort. Il y a des gens qui n'ont pas adhéré parce qu'ils ont trouvé ça trop contemplatif, justement. Ça, on l'a fait en connaissance de cause, mais. Enfin, voilà, juste pour dire que du coup, moi je suis vachement sensible à, on va dire, bêtement à la quantité de texte qu'il peut y avoir dans un album. Mais Hellboy, à nouveau, il y a très peu de texte. Commando Colonial, il y a juste ce qu'il faut, mais il y a beaucoup de choses qui passent à travers l'image et dans les ambiances, et c'est ce qui fait que c'est une série que j'ai vraiment, vraiment appréciée. Mais...
C'est un style très très ligne claire. Là, je viens de trouver une planche sur internet. Mmh. Vraiment très très ligne claire. Ça me fait penser à une sorte de RG, mais en plus contemporain. Alors, je sais pas si c'est la planche à laquelle je suis tombé en particulier. Hein. Encore plus simplifié, du RG en plus simplifié.
Oui, il a un dessin assez, ouais, très très simple et à la fois super efficace. Hein. C'est là où je pense qu'il est vraiment doué pour ça. C'est qu'effectivement, il y a très peu de traits si tu regardes les planches. L'ancrage est, par contre, il a un ancrage assez plutôt épais et je pense que sa mise en couleur fait vraiment, enfin, donne vraiment toute la. On va dire toute la puissance à ces planches. Et, enfin, je trouve que ça, dans Commando Colonial, avec les ambiances, les soleils couchants sur les îles, la jungle et tout, il y a des oranges, des verts et tout. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Et voilà. Et on ne parle pas souvent ou en tout cas pas assez de la couleur dans les BD. Mais et là, ça participe vraiment, je trouve, à la réussite des trois albums.
Ok. Et on change de pays.
Allons-y.
Nous allons à Pyongyang.
Plus au même endroit.
Ah non, plus au même endroit, en Corée du Nord, donc une bande dessinée de Guy Delisle, dont j'ai déjà entendu parler, c'est chez l'association, j'en ai entendu parler parce qu'il y a quelqu'un qui s'était amusé à refaire toute la BD en photo.
En photo, en allant, ouais, j'ai vu le début, effectivement, il a recadré exactement les cadrages de la BD, c'était assez rigolo, ouais. C'est flippant parce que c'est là que si t'avais pas encore compris que Guy Delisle peignait juste vraiment la réalité sans vraiment trop l'enjoliver, là tu t'aperçois que c'est bien ça et c'est un peu inquiétant pour ce qui est de la Corée du Nord. Mais c'est un super album, hein. Clairement c'est un album que j'ai beaucoup offert, notamment parce que ça parle de, il y va pour une mission en dessin animé et que j'ai pas mal de fans d'animation. Dans les gens que je côtoie, et du coup, qui lisent pas forcément de la BD, donc je leur ai offert cet album-là, parce qu'il faisait écho à l'animation. Et c'est tellement gros qu'effectivement, tu crois pas que c'est bêtement, qu'ils relatent bêtement les faits, en fait, dans Pyongyang, quoi. Tu dis, c'est pas possible que ça soit comme ça, quoi.
Ça raconte quoi?
Ça raconte, en gros, alors je sais plus quelle période, la période qu'il a passée en Corée du Nord pour superviser une adaptation. Un dessin animé, je crois que c'était Papyrus, je suis pas sûr du dessin animé. Et en gros, il était missionné pour aller superviser tout ce qui était réalisation d'un certain nombre d'épisodes de ce dessin animé. Et donc, il était accueilli en Corée du Nord et il est tombé en plein milieu en plein milieu de ce régime et de toutes les aberrations qui sont associées. Il faut savoir qu'il coupe encore toutes les pelouses des aires d'autoroute à la main. Il n'allume les autoroutes que quand un dignitaire étranger vient l'emprunter. Je crois qu'il raconte un moment qu'il est allé dans un musée de l'amitié qu'avec des montages photos du dirigeant avec les dirigeants de tous les pays, et que le musée se situe à 300 km de Pyongyang, et il y a une autoroute flambant neuve qui sert juste à faire 300 km jusqu'à ce musée. Enfin, c'est rempli de trucs complètement aberrants et qui sont que des faits. Hein.
C'est un truc autobiographique.
Autobiographique parce qu'il raconte son aventure là-dedans, puis en même temps, c'est une peinture de la Corée du Nord vue sur place, enfin constatée. Donc il y a vraiment les deux et c'est vraiment une BD remarquable. C'est en noir et blanc.
Ça me fait penser au Kabul Disco de Nicolas Wilde. Je sais pas si tu l'as lu.
Non, je n'ai pas lu.
Bon, bah, c'est un peu la même thématique. C'est le gars qui va se retrouver sur un projet en Afghanistan. Donc au niveau actualité, c'était donc pour lui la guerre était finie, donc c'était la paix. Donc il y va un petit peu parce qu'il a besoin de boulot en fait sur cette mission à bosser sur des projets de BD jeunesse pour expliquer ce que c'est que la constitution aux jeunes Afghans, etc. Et c'est un peu le même côté, c'est-à-dire qu'on découvre à quoi ressemble l'Afghanistan maintenant, avec toutes les évolutions qu'il y a eu, surtout que ça a dû déjà, depuis la sortie de la BD, ça a dû déjà bien changer. Tiens d'ailleurs, Nicolas Wilde cherchait il y a peu de temps quelqu'un pour le remplacer sur une mission en Afghanistan. Et il disait que c'était « Allez-y, c'est de l'aventure !»
Ouais, mais je crois que Guy Delisle, finit pareil. Il dit que voilà, c'était une expérience, mais que une fois, c'est bien de là le refaire. Il raconte que les animateurs sont payés. Les animateurs qui supervisaient étaient payés en sacs de riz quand même, tu vois, par exemple. Le mois de travail était payé, t'avais une quantité de sacs de riz. Donc, tu trouves c'était vraiment hallucinant en fait. On a déjà une image de la Corée du Nord tous, mais le fait d'avoir sa vie quotidienne pendant son séjour et son regard sur les aberrations qu'il a vu là-bas, c'est juste un album que tu lâches pas du début à la fin, quoi. C'est vraiment très bien.
Du coup, c'est à la fois satirique, enfin humoristique, mais en même temps, enfin tu.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il il prend pas le parti de faire la satire lui-même. Lui, il te dit, je suis tombé là-dessus, je suis resté con, toi. Il dit même pas, je trouve ça aberrant ou quoi. Il essaye de donner le point de vue. Et te mettre toi devant les situations que lui il s'attendait pas à voir. Donc tu vois, il apporte même pas un jugement ou quoi que ce soit, quoi. Il dit je suis arrivé et là effectivement c'était la fin du mois et j'ai vu les animateurs repartir avec 5 sacs de riz et en fait c'était leur salaire. Enfin, tu vois, il porte même pas spécialement un jugement, il te laisse te faire ton idée. Et c'est ça qui est d'autant plus fort, c'est qu'il se met juste comme quelqu'un qui a passé un séjour là-bas. Il n'est pas journaliste. Il cherche même pas spécialement à décrier le régime. Il sait très bien que le régime n'a pas besoin de lui, de notre point de vue d'occidentaux, pour être décrié. Donc, il te dit juste, je me suis levé le matin. Le chauffeur m'a emmené au musée. On a fait 300 km sur une autoroute qu'on a juste éclairée sur notre passage. La plate-bande de gazon, j'ai vu des gens la tailler à la serpe à la main sur les 300 km. Je suis arrivé dans un musée, le musée de l'amitié, où ça se voyait gros comme le nez au milieu de la figure, que c'était que des montages photographiques du leader en train de serrer la main des leaders étrangers. Et voilà, toi, il te montre juste son voyage, quoi. C'est vraiment un carnet de voyage. Mais à chaque page, tu relis la page, tu dis, c'est pas possible, il en rajoute, enfin, c'est forcément trop gros, quoi. Et puis non. Et le gars qui a refait les photos du cadrage de l'album, tu vois bien que, en plus, il a dessiné de façon documentaire, en dessinant vraiment ce qu'il a vu. C'est un des albums qui m'a le plus marqué, quand je me suis remis à relire de la BD il y a quelques années. C'est un des albums que j'ai le plus offert, je pense, quoi. Et c'est clairement pas le plus drôle, hein, on est bien d'accord, mais c'est tellement condensé d'aberrations que tu le lâches pas du début à la fin.
Ça donne bien envie.
Ouais, ça donne envie, là.
Nous allons enchaîner sur quelque chose d'un peu plus sérieux parce que c'est fini de rigoler. Ça s'appelle Naruto.
Naruto, oui, c'est sûr, c'est moins sérieux.
Tu l'as cité comme la BD, je crois, le plaisir honteux.
Oui, alors parce que j'ai commencé à lire Naruto, alors je t'avoue que j'ai abandonné depuis, hein, j'ai pas réussi quand même. En fait, c'était à but strictement professionnel. Non, je rigole. Il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes dans Naruto, je vais y revenir, mais à la base, je l'ai lu parce que je travaillais sur un jeu de société sur le thème des ninjas. Donc, du coup, j'ai fait un peu de recherche pour trouver des idées et j'ai trouvé un jeu sur ma PlayStation qui s'appelait Mini Ninja. Et je me suis dit, bah, je vais profiter de la gentillesse de mon libraire qui va me prêter les Naruto. Et j'ai commencé à lire Naruto. Alors, j'en ai lu 18, je crois. Moi, j'ai eu un peu de mal parce que quand même, ça avance tellement lentement que c'est pas facile, mais voilà. Mais est-ce que je l'ai aussi lu parce que c'est un truc qui fait un carton, quoi. Donc c'est un truc qui est souvent décrié, on va dire, par les lecteurs bien pensants de bande dessinée, mais c'est quand même un truc qui se vend, je sais plus combien c'est en France, chaque tome, c'est un truc complètement aberrant. Donc c'est toujours, j'aime bien savoir, tu vois, pourquoi ça marche, en fait. Donc c'est toujours intéressant de... Alors j'ai pas tout lu parce que au bout d'un moment t'as compris le principe et effectivement c'est, je trouvais plus mon, j'avais plus de plaisir à lire en termes de lecteur, mais c'était intéressant de lire pour qu'est-ce qui fait qu'ils en vendent autant, quoi, parce que c'est, à un moment tu te poses une question, hein, tu dis, comment ça peut marcher autant ce truc-là. Alors je t'avoue que j'ai pas spécialement la réponse, hein, mais
parce que même chez les plus petits, hein, moi je le vois, on va dire dans les cours de récréation, ils sont Naruto, quoi.
Ah ouais,
ils refont les combats, les prises, le pouvoir machin, c'est...
C'est bien, ils connaissent les noms japonais des techniques, parce que les noms sont quand même laissés... Il y a certains noms qui sont laissés en japonais dans le manga, ce que je trouve très bien, d'ailleurs. Mais oui, c'est assez incroyable, ce phénomène-là. Je ne sais plus combien il y a de tomes, hein. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi, parce qu'il y en avait beaucoup plus que ce que je pensais. Il y en a au moins 70, ou j'en sais rien.
Je crois que c'est ça. Mais nous, c'était pareil avec les Dragon Ball. Hein. Ouais, on les connaissait par cœur, on se faisait des caméas dans la cour de récré...
Tu vois, pour le coup, c'est un phénomène similaire. Pour le coup, j'ai relu le début de Dragon Ball et quand même, dans Dragon Ball, il y a plein de trucs en termes de narration, d'humour, je trouve vraiment bon, quoi, tu vois, en termes de, tu vois, en essayant d'avoir un regard un peu critique. Toriyama, c'était quand même quelqu'un qui avait quand même bien tout compris à son média et le rythme, la narration, l'humour, les personnages. C'est quand même, je trouve, beaucoup plus riche que Naruto. Finalement, Naruto, au bout de 15 albums, je confonds tous les personnages parce qu'il y en a plein qui sont pas si différenciés que ça en termes de dessin et de caractère. Donc, typiquement, tu vois, ouais, c'est ce que je trouve surprenant, c'est que pour moi, Dragon Ball est clairement plusieurs niveaux au-dessus. En tout cas, pour le début de la saga de Dragon Ball. Après, sans partir dans les rallonges qu'on fait après, mais.
Oui. Le super guerrier du super guerrier du super guerrier.
Ouais, voilà, ouais, tu vois, mais tout ce qui est Dragon Ball, le premier, avant premier, Z, ouais. ça reste quand même une œuvre vraiment majeure, quoi, en termes de scénario, de dessin, d'humour, de personnage, de rythme. Je relirais plus facilement Dragon Ball que Naruto, très clairement.
T'as pas un peu l'impression que le fait de décrier les Naruto et compagnie, c'est parce qu'on est un peu devenus des vieux cons et que c'est ce côté de dire, ouais, mais c'est truc pour les gamins, ça a pas de valeur, alors que, en fin de compte, comme je disais pour Dragon Ball, on lisait le même type de produit quand on était plus jeune.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai essayé de les lire, en fait, tu vois, pour pas tomber dans le truc, ouais, mais bon, arrêtez avec Naruto, c'est n'importe quoi, sans l'avoir lu. Donc, moi, j'ai quand même lu le début pour savoir de quoi je parlais aussi. Donc, toi, j'ai toujours un peu. Il y a pas mal de lectures ou de films ou de séries que je regarde par déformation professionnelle pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils font que ces séries suscitent telle ou telle émotion ou engouement enfin comme tu disais tout à l'heure, tu vois, Naruto, enfin tous les gamins connaissent Naruto, enfin c'est impressionnant, quoi. Et ils connaissent les techniques, ils peuvent te citer l'album où tel méchant arrive, enfin c'est impressionnant, quoi. Ils sont à fond là-dedans. Je crois pas que j'étais autant à fond dans Dragon Ball quand je le lisais au collège, tu vois.
Oui, je
dis ça maintenant, mais c'est possible aussi bien à l'époque.
Moi, je les ai pas lus, en fait. J'ai même pas vu les dessins animés.
Dragon Ball, je les ai lus après avoir vu les dessins animés.
Mais Dragon Ball aussi. Ouais.
Dragon Ball Z, je suis arrivé au manga après avoir vu l'animé, en fait.
D'accord. Alors, moi, comme je te disais au début de l'émission, je faisais partie de ces 2-3 malades qui, déjà à l'époque, faisaient venir les mangas en japonais en import pour les lire sans comprendre ce qu'il y avait dans les bulles, quoi. Donc j'ai vraiment commencé comme ça, quoi. Mais voilà, enfin tout ça pour dire que je suis content d'avoir quand même lu les premiers Naruto, parce que ça reste quasiment un phénomène de société, tu vois, au même titre que certaines séries télé ou je sais pas quoi, ou que la télé-réalité ou quoi que ce soit, quoi. Donc moi j'essaye de pas de pas cracher dessus, mais plutôt d'essayer de comprendre ce qui fait que c'est un tel engouement, et pour que d'un point de vue après professionnel, apprendre des choses, en fait, hein, tout simplement, quoi.
Là, je vais la jouer vraiment le côté naïf. Donc, je n'ai ni, j'ai dû passer une fois voir un bout d'épisode. J'ai dû feuilleter une DVD. Si j'ai bien compris, Naruto, c'est un apprenti ninja et on suit sa vie. C'est ça le pitch de départ.
Ouais, c'est un apprenti ninja. Alors, c'est un petit peu plus, il y a un petit twist scénaristique. C'est qu'en gros, il habite à l'intérieur de son corps une espèce de méga gros démon, comme seul le japonais savait le faire. Donc, en fait, qui a été enfermé dans son corps. Et c'est ce qui fait qu'il a des aptitudes très clairement supérieures, on va dire, aux garçons de son âge, et qui font qu'il va devenir un ninja super, super, super balèze, quoi. Mais effectivement, c'est, tu vois, c'est une espèce de Harry Potter-like, quoi. On le découvre tout petit alors qu'il est sur les bancs de l'école de ninja, et puis on suit son parcours. À nouveau, là, c'est du, enfin, tradition du manga, quoi. Il apprend des choses, il devient plus fort, il rencontre des méchants plus forts et compagnie. Enfin, un schéma qu'on a souvent. Souvent en manga pour garçons.
Il découvre le sixième sens, puis le septième, ouais, puis le huitième.
Le septième, le huitième, il y trouve toujours un nouveau sens. Les Japonais, ils sont très forts pour ça. Ils sont vus que les chiffres, on pouvait compter jusqu'à très loin, donc ils se privent pas.
Eh bien, nous passons à l'intégrale. Tu as sélectionné Calvin et Hobbes.
Ah ben voilà, Calvin et Hobbes, si mon appartement doit prendre feu là dans la seconde, je pense que la seule chose avec laquelle j'essaye de partir, c'est mon intégrale en VO de Calvin et Hobbes, ouais, effectivement. Si je dois en garder qu'un, c'est Calvin et Hobbes. Pareil, pour moi, c'est vraiment un monument. Watterson, c'est quelqu'un qui a tout compris à l'art qu'il pratique, quoi. Que ce soit sur le plan du personnage, de l'histoire, du dessin. J'adore Calvin et Hobbes. Pour l'anecdote, le coffret dont je me suis acheté, je sais pas si tu l'as déjà vu, ils ont sorti un superbe coffret intégral, collector, un truc qui pèse, je crois que ça pèse 15 kilos. Je l'ai ramené de Belgique, presque à pied, hein. J'exagère, pas à pied, mais je l'ai trouvé dans une librairie là-bas au moment où il est sorti. Et je me suis charrié à bout de bras, j'avais pas de sec, dans le métro, dans le train, dans le taxi, jusqu'à chez moi. J'avais les bras ankylosés à la fin, mais voilà, je savais que c'était pas raisonnable de repartir avec un gros bloc comme ça de 15 kilos, mais quand je suis tombé dessus, je l'ai pris, quoi.
Calvin et Hobbes, donc, c'est une série de strips de Bill Watterson qui raconte les aventures plus ou moins imaginaires d'un petit garçon et de son ours en peluche et de son tigre en peluche. C'est bien ça? Je résume bien.
Qui a en gros 5-6 ans et qui a un tigre en peluche, donc qui s'appelle Hobbes, et dans son imaginaire, c'est son ami imaginaire, donc c'est clairement un tigre vivant pour lui. Seulement pour lui, et c'était des strips qui paraissaient, alors je ne sais pas le journal, mais c'était un strip, il y avait un strip par jour dans je ne sais pas quel journal américain, mais je ne pourrais pas te dire.
Sans doute dans plusieurs, parce qu'en général, c'est, il y a des, comment ils appellent ça, des syndicats qui vont redistribuer des strips dans les journaux locaux, etc.
Et c'est d'autant, enfin moi c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très, très fort, c'est d'arriver à produire une idée comme ça, à chaque jour, là, t'as pas le choix, il faut que tous les soirs t'aies un nouveau dessin, quoi. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé vraiment impressionnant, c'est que là, il en faisait 5 par semaine, du coup, hein, par jour ouvrable, et il y avait plus une planche complète, je crois, le samedi, en couleur. Et il a fait ça pendant 10 ans. Exactement 10 ans, puisqu'au bout de 10 ans, il a dit, ça y est, c'est fini, je dessinerai plus jamais de Calvin et Hobbes et compagnie. Il a fait ça pendant 10 ans, donc tous les jours, quoi. Surtout que c'est la presse, hein, donc il n'y a pas de vacances scolaires. Et donc c'est l'histoire de ce petit garçon qui est clairement plus mature sur plusieurs points que son âge et toute une ribambelle de personnages qui orbitent autour de lui, donc ses parents, on va dire la fille qui est un peu son souffre-douleur, il y a une espèce de primate à son école qui lui raquette son goûter régulièrement. Et là où c'est clairement une série d'humour, mais à chaque fois il y a toute une grosse réflexion en gros sur la vie, sur l'enfance, sur la famille. Enfin, il y a beaucoup de sujets de société qui sont traités à travers les yeux de ce petit garçon qui lui finalement veut regarder des dessins animés en mangeant un bol de céréales tous les matins, mais qui a pas envie de faire ses devoirs. Mais c'est une fois de plus on est dans ces espèces de contrastes dont j'ai déjà parlé, c'est clairement des strips d'humour, mais il y a plein de choses que Watterson fait passer à travers, alors en un strip, hein, donc c'est d'autant plus fort, c'est-à-dire qu'en trois cases il arrive à faire passer tout ça, mais il y a l'humour et il y a toute cette réflexion, alors ça va dépendre de des strips, il traite pratiquement tout. Il en a fait pendant 10 ans, donc il a eu le temps de traiter pas mal de choses, que ce soit de la politique, de la famille, de l'alimentaire. Alors des fois il part dans des trips, il est avec ses jouets, par exemple des dinosaures, et du coup il s'imagine complètement dans un film à la Godzilla. Donc du coup les petits dinosaures jouets deviennent des vrais dinosaures de 20 mètres de haut. Et il arrive à, comme ça à transposer des univers, à faire prendre vie en fait à ses jouets en plus qu'à son tigre, quoi. C'est voilà, si on l'a pas lu, il faut vraiment lire Calvin et Hobbes. Ça existe en français et les traductions sont plutôt bonnes, mais en BD strip, ça reste à mon avis l'incontournable. Ouais, s'il y en a qu'un à lire en strip, quoi.
D'ailleurs, il y a un truc qui est remarquable, je trouve, chez Watterson, c'est qu'il a refusé tout merchandising autour de ses personnages. Alors que tout le monde aurait voulu avoir un t-shirt ou un mug ou quoi que ce soit Calvin et Hobbes, il n'existe rien du tout à part les BD autour de Calvin et Hobbes. Et si on trouve autre chose,
c'est de la contrefaçon.
La contrefaçon.
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, j'ai même vu des gens qui se sont fait tatouer du coup des Calvin et Hobbes, parce qu'effectivement, si tu trouves un peu de contrefaçon, mais il a toujours refusé toute déclinaison commerciale de ces personnages. Et c'est pas anodin aussi le fait qu'il ait fait 10 ans et qu'il ait arrêté en gros du jour au lendemain. Enfin, tu vois, c'est quand même pas anodin de décider un jour, bon ben voilà, j'en ai fait pendant 10 ans, là j'en ferai plus jamais. Enfin, ça va s'arrêter comme ça, quoi. C'est du coup, je pense que c'est voilà, c'est un personnage que j'aimerais rencontrer, Watterson. Il y a sûrement quelqu'un de très intéressant à côtoyer, quoi.
Oui, bah surtout qu'en fait il reste l'auteur de Calvin et Hobbes et que j'ai peur que quoi qu'il fasse derrière, on n'arrive pas à en entendre parler, quoi.
Je sais pas du tout d'ailleurs s'il publie d'autres choses, tu vois, je me suis pas renseigné. Ça serait intéressant de savoir s'il a essayé de faire autre chose, s'il écrit toujours pour la presse ou si finalement il est passé à autre chose complètement, je sais pas.
Ou s'il profite des royalties pour avoir une retraite méritée.
Ça se trouve, il est devenu pêcheur.
Ouais, peut-être. Et surtout, tu vois, est-ce qu'au bout de 10 ans, tu arrives à te dire, je ne dessine plus, je n'écris plus les aventures de Calvin et Hobbes. Tu vois, même si tu vas te dire, je peux vivre de mes royalties, et sûrement qu'il pourrait très bien en vivre, sur le point de vue créatif, t'arrêter du jour au lendemain, c'est pas anodin. Je pense que ça doit, avoir pas mal de choses qui te passent par la tête, quand même, tu vois. Mmh. Est-ce que j'ai bien fait d'arrêter? Est-ce qu'il faudrait pas que je reprenne? Je sais pas s'il a donné des interviews, des témoignages sur la fin de Calvin et Hobbes. Si vous tombez dessus, envoyez-moi les liens, ce sera intéressant.
Ouais, faudra que je me renseigne.
C'est une démarche qui est pas habituelle dans le monde, que ce soit de la BD ou quoi que ce soit. D'ailleurs, tu vois bien Miyazaki chez Ghibli qui dit à chaque fois c'est mon dernier long métrage, et finalement depuis qu'il a dit ça, il en a sorti 3. Tu vois, ça c'est plus ce que tu t'attends à voir de la part de ces gens-là, quoi. Watterson, il a vraiment arrêté du jour au lendemain au bout de 10 ans pile de Calvin et Hobbes, donc c'est clairement pas anodin.
Le pauvre fils de Miyazaki, quand même. Il attend toujours d'avoir la boîte.
Oui.
Il lâche pas les rênes.
Non, papa est toujours là.
Hein. Ne serait-ce que la reconnaissance de son père, il a eu du mal à l'avoir.
Déjà, ouais, c'est pas... Surtout les Japonais là-dessus, ils sont pas faciles.
Eh ben, merci pour tout ça. On a fait un peu le tour des BD. Donc le questionnaire, tu l'as fait il y a quelque temps. T'as eu une autre découverte, un truc dont t'aurais aimé te parler en BD récemment
Je viens de commencer à lire Orbital de Pelé et Runberg au scénario, série SF chez Dupuis en 4 tomes. J'ai vu qu'il y a un coffret qui est sorti, un joli coffret qui est sorti. Du coup, je viens juste de le commencer et je suis tombé dessus parce que c'est de la SF plutôt space opéra et c'est un genre que j'aime bien, il n'y a pas tant de trucs que ça, surtout en franco-belge. Donc j'ai commencé à lire ça et pour l'instant ça me plaît bien. Je ne peux pas t'en dire plus parce que je suis au début, mais voilà, Orbital, ça s'appelle.
Je ne connais pas du tout.
Non, là, ouais. Je ne peux pas t'aider.
On se renseignera. Eh bien, on va pouvoir passer à nos questions à la con. Alors, il va falloir faire une petite sélection sur nos questions à la con, parce qu'on en a toute une flopée, on ne va peut-être pas toutes les poser.
Ça dépend, si on va vite.
Si on va vite. Bon, en gros, à chaque fois, on va te dire 2 mots.
Oui.
Tu choisis celui que tu préfères. Et tu peux faire un petit commentaire si t'as envie de préciser derrière.
D'accord.
Allez, c'est parti, on commence. Hergé ou Franquin ?
Franquin.
Soleil ou l'association ? L'association.
L'association.
Jonah Jameson ou Jenna Jameson ?
Jensen.
Elle tombe à plat à chaque fois, cette question.
Ça, ouais. Je suis désolé, ouais, j'ai pas suivi.
C'est pas grave, c'est un vieux private joke.
Si tu m'expliqueras hors ligne.
Ouais, c'est un petit lapsus que j'avais fait dans une émission.
On y reviendra.
Batman ou Superman?
Batman.
À moteur ou à plume?
Moteur.
Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe?
Couleur de luxe.
Slip ou caleçon?
Caleçon.
Blonde ou brune?
Brune.
Thé ou café?
Café. Ah, c'est dur ça. Trop des deux.
Numérique ou traditionnel?
Tradi.
One shot ou saga?
One shot.
Donald ou Howard the Duck?
Donald.
Toriyama ou Otomo?
Toriyama, allez, parce qu'on a parlé de Dragon Ball.
Protoss ou Zerg?
Ah, tu ne joues pas à StarCraft du tout.
Ouais. Mais tu les connais quand même.
Ouais, tu sais, c'est pareil, c'est des phénomènes de société. Mais tu sais, moi, je fais beaucoup de jeux vidéo, mais je ne suis pas du tout RTS et compagnie.
Bière ou pastis?
Thé, café. Je bois pas d'alcool du tout aussi.
D'accord.
Blur ou Oasis?
Blur.
ADD ou Vampire?
ADD.
Magic ou Dune?
Magic.
Ok, bah merci. Voilà, tu vois, c'est vraiment les petites questions rapides. On peut te retrouver sur le net sur toanito.free.fr où il y a toutes les infos te concernant.
Ouais, il y a une partie blog depuis l'année dernière. Alors, je parle plus de jeux que de BD. Hein,
oui, tu parles, tu parles que de quasiment que de.
Quasiment que de jeux, mais bon. Voilà.
Sauf pour annoncer 2-3 choses sur l'encre du passé. Justement, la BD a eu le prix œcuménique en 2010, c'est ça?
Angoulême et le prix Luciole aussi, qui est donné par une librairie à Vienne, en dessous de Lyon. Pour lequel on a eu prix, pour lequel du coup on est juré pour l'édition d'après. Donc quand il y a des prix, je relais les informations. Là, on est aussi sélectionné pour le prix PACA des libraires, qui est organisé dans la région, pour lequel on va faire des déplacements bientôt. Là, du coup, on va rencontrer des écoles, on va aussi dans une maison d'arrêt rencontrer des lecteurs d'une maison d'arrêt. Et voilà, pour ce prix-là, donc il y a quand même quelques infos du coup sur l'encre du passé, mais bon, ça reste 95% de jeux, on va dire.
Prix PACA des libraires, on va pouvoir attaquer les nôtres.
Voilà, j'ai toute la sélection à lire pour bientôt, d'ailleurs il faut que je m'y mette.
Voilà, et puis tu as failli, mais à peu de choses près, avoir le prix Larmounette de la BD qui fait pleurer, enfin le prix, à peu de choses près. Failli être deuxième, c'est nos prix à nous en fait, que j'ai mis en route, avec que des petites...
Ouais, je pense même que j'ai fait un espèce de vote égoïste et que j'ai voté pour moi, mais je suis pas sûr. Quand je connaissais les albums, et j'étais loin de tous les connaître, en fait.
Bah, en fait, l'encre du passé a eu un petit 14%, ce qui est pas mal. Bon, c'est Y, le dernier homme, qui a tout fracassé. Et on en a déjà parlé dans l'émission d'avant, mais qu'on enregistrera après.
Ah, ça, oui.
Tu sais, des problèmes de timing.
En simple.
Voilà. Ok, bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Moi, je continue à suivre ce que tu fais parce que tu m'as vraiment bluffé avec l'encre du passé. J'ai bien envie de continuer à te lire en BD.
Ben, merci.
Et puis, avec tout le bien que j'entends parler de Seven Wonders, il va peut-être falloir que je craque un de ces quatre.
Ouais, alors faut que t'attendes un peu parce qu'il est en rupture, mais il revient en février, normalement. Là, je sais pas si t'en prends une boîte. Faut que tu trouves quelqu'un qui en a déjà une, sinon. Mais...
D'accord. Bon, bah, je me jetterai dessus en février. Je me le ferai offrir ou je verrai. Ok, bah merci beaucoup et à bientôt.
Eh ben merci à vous. Salut.
Ciao. Merci.